Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, se faire une création nouvelle et vous renouvellerez la face de la terre. Prions, ô Dieu qui avez daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse ces divines consolations pour le même Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, eh bien, chers amis, nous en sommes toujours dans le supplément de la Somme théologique de saint Thomas d'Aquin, la question 21, article 3. Donc, sur l'excommunication, sa définition, sa convenance et ses causes. C'est dernière partie du traité sur la Sainte Confession sont des parties assez canoniques, donc je vais passer assez vite parce que ce sont des choses un peu techniques qu'il faut que nous prêtres nous connaissions bien, mais qui ne sont pas peut-être si importantes que ça pour les fidèles. Je vais commencer par vous donner la liste des excommunications, ou des principales excommunications. Les différents degrés d'excommunication. Donc, certaines sont réservées au Saint-Siège, c'est-à-dire que seul le pape peut les relever, celui qui est tombé dans cette excommunication. Et d'autres, au contraire, sont non réservées. Les excommunications réservées au Saint-Siège sont des péchés extrêmement graves. La profanation des saintes espèces, quelqu'un par exemple qui cambriole un tabernacle pour profaner le Saint-Sacrement. Voie de fait sur le pape, quelqu'un qui cherche à tuer le pape, par exemple. Absolution du complice dans les choses relatives au sixième commandement. C'est-à-dire que c'est un péché très particulier si un prêtre commet une faute grave contre la pureté avec une femme. Eh bien, il ne peut pas l'absoudre, évidemment, parce qu'il est complice. S'il le fait, il y a une peine d'excommunication pour ça. Enfin, le viol direct du secret de confession. Et le pape Pie XII avait rajouté la consécration épiscopale sans mandat pontifical. Donc, profanation des saintes espèces, voie de fait sur le pape, absolution du complice dans les choses relatives au sixième commandement, viol direct du secret de confession, consécration épiscopale sans mandat pontifical. Dans les excommunications non réservées, l'apostasie, l'hérésie, le schisme, l'avortement suivi de la mort de l'enfant, condition que les personnes aient eu connaissance de l'excommunication avant de commettre l'acte, le viol ou la divulgation du secret de confession par des instruments techniques, par exemple par une table d'écoute ou enregistrement, sont les pères principales d'excommunication. Donc, revenons au texte de saint Thomas, donc question 21, article 3, peut-on être excommunié pour un dommage temporel qu'on aurait causé? Donc je vous l'ai dit, je vais aller un petit peu plus vite là-dessus, vous donner certains points qui me semblent importants. Alors saint Thomas va donner l'exemple de saint Pierre, qui condamne à mort Ananie et Saphir, donc pour fraude sur le prix du champ, donc c'est dans le livre des Actes des Apôtres. Ananie et Saphir avaient menti sur le prix d'un champ qu'ils avaient donné, avec intention de donner aux apôtres le prix du champ. Ils avaient menti là-dessus et le bon Dieu a voulu frapper un petit peu la jeune église qui venait de naître, l'église catholique, de certaines choses, et a permis que Saint-Pierre condamne à mort d'abord Ananie puis Saphir. En fait, ils sont tombés tous les deux raides morts pour ce qu'ils avaient fait. Alors, Voilà ce que dit saint Thomas. Par l'excommunication, le juge ecclésiastique, celui qui a l'autorité, celui qui a la juridiction, exclut en quelque sorte l'excommunié du royaume. Donc, comme par ailleurs, il ne doit en exclure que les indignes, ainsi qu'on a pu le voir par la définition du pouvoir des clés, que personne n'est rendu indigne que si, par le péché mortel, il a perdu la charité, laquelle est la voie qui conduit au royaume, il suit en conséquence que personne ne doit être excommunié, sinon pour des péchés graves. Mais puisqu'on pêche mortellement et qu'on agit contre la charité en causant un dommage au prochain dans son corps et dans ses biens matériels, il faut conclure que pour un tel dommage, l'Église peut excommunier. Mais évidemment, attention, il faut l'excommunication, ne doit être infligée à quelqu'un, même s'il y a péché mortel, que s'il s'est rendu contumace. C'est-à-dire qu'il faut, que la personne sache ce qu'elle fait. L'exemple classique, c'est l'avortement. Quand une personne s'accuse malheureusement au confessionnal d'un péché d'avortement, première question que je veux lui poser, lui dire, madame, est-ce que vous saviez, avant de commettre ce péché d'avortement, est-ce que vous saviez que ce péché, ce meurtre de ce bébé innocent est sanctionné par une peine d'excommunication? Et si elle me dit non, je l'ignorais totalement à l'époque, je l'ignorais toujours avant de venir me confesser à vous, je découvre aujourd'hui, il n'y a pas de peine d'excommunication. Donc si, après avoir reçu un avertissement, la personne qui risque l'excommunication refuse d'obéir, il est alors réputé ce qu'on appelle contumace et doit être excommunié par le juge dans certains cas. La quantité d'une faute ne se mesure pas d'après le tort qui a été fait, mais d'après la volonté que l'on a eue en agissant contre la charité. Donc reportez-vous à la liste des grandes excommunications que je viens de vous donner. Alors, il est important de savoir ce qu'il faut faire. Saint Thomas va toucher ce sujet. Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'une excommunication est injuste? Une excommunication portée injustement, telle qu'elle est faite. Alors voilà ce qu'il répond saint Thomas. Si l'erreur de la sentence est telle qu'elle la rende invalide, l'excommunication elle-même est de nul effet, car à vrai dire, il n'y a plus d'excommunication. Si au contraire, l'erreur ne va pas jusqu'à annuler la sentence, l'excommunication alors a son effet. Celui qu'elle frappe est tenu humblement d'obéir, ce qui lui sera compté comme mérite, ou bien il doit demander d'être absous à celui qui l'a excommunié, ou encore il doit recourir au juge de rang plus élevé. S'il vient mépriser la sentence, il pèche mortellement. Donc c'est des points canoniques assez compliqués. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'excommunication et le péché mortel sont deux choses différentes. Donc un prêtre, une personne ne peut pas être excommuniée, c'est ce que dit saint Thomas, une personne ne peut pas être excommuniée sans avoir commis une faute grave. L'excommunication ne peut qu'être la sanction d'une faute grave. Donc, si une personne est excommuniée pour faute grave, un prêtre peut enlever le péché, peut pardonner le péché au confessionnal. Tout prêtre a ce pouvoir pour ça. Mais par contre, pour enlever l'excommunication, il faut une juridiction particulière. Il faut des autorisations particulières. Et donc, quand quelqu'un, imaginez quelqu'un qui vient de me voir au confessionnal et qui me dit « Voilà, monsieur l'abbé, j'ai été coupable d'un péché d'avortement, j'ai tué mon bébé. » Je savais à l'époque de ce meurtre que cette peine est liée, ce meurtre est lié à une peine d'excommunication. Mais j'ai le pouvoir en tant que tel en soi, et j'ai le pouvoir de pardonner le péché d'avortement. Mais par contre, j'ai pas le pouvoir, strictement parlant, en état normal des choses, j'aurais pas le pouvoir d'enlever l'excommunication. Et c'est pour ça qu'il faut faire très attention à ces fautes graves qui sont sanctionnés par une peine d'excommunication. Alors, quels sont ceux qui peuvent excommunier et ceux qui peuvent être l'objet d'une excommunication? Donc, saint Thomas explique bien que la peine d'excommunication est pleine de périls, à moins qu'elle ne soit portée avec mesure. Il ne convient donc pas qu'elle soit confiée à n'importe quel prêtre, n'importe qui ne peut pas excommunier le voisin, c'est évident. Alors, certaines personnes, même non prêtres, peuvent porter une excommunication. C'est-à-dire que le pouvoir d'excommunier quelqu'un est réservé à certaines personnes qui ont un poste particulier dans l'Église, qui ont une juridiction particulière. Et saint Thomas, dans l'exemple des archidiacres, c'est un poste qui a pratiquement disparu aujourd'hui, les archidiacres, les légats pontificaux et ceux qui sont élus à une charge peuvent excommunier, même s'ils ne sont pas prêtres. Ce pouvoir n'est donc pas réservé aux seuls prêtres. Dans la pratique aujourd'hui, c'est ces distinctions canoniques n'ont plus lieu, puisque tous ceux qui ont une charge particulière, équivalent par exemple à être supérieur d'un diocèse, un évêque est toujours prêtre. Il n'existe plus de cardinaux non prêtres comme c'était le cas auparavant, je vous l'ai déjà dit. Alors, celui dont le corps est lié ne peut pas lier lui-même les autres. Alors, un lien est spirituel est plus fort qu'un lien corporel. Donc, puisque c'est l'excommunication qui est un lien spirituel, celui qui est excommunié, évidemment, ne peut pas en excommunier un autre. Donc, je vais un petit peu vite sur toutes ces choses-là. Ce cours va être un petit peu ardu, dans le sens un peu sec, je dirais, mais je tiens à terminer quand même les dernières questions de saint Thomas sur ce sujet-là. Donc, dès que quelqu'un qui a pouvoir d'excommunier quelqu'un d'autre est lui-même excommunié, dès qu'il est séparé de la communion des fidèles, un excommunié se trouve de ce fait privé de l'usage de la juridiction. Donc il n'a plus juridiction, mais un excommunié en tant que tel, strictement parlant, ne peut plus confesser, puisqu'il faut une juridiction pour confesser. Il ne peut plus être témoin d'un mariage, puisqu'il faut une juridiction pour marier quelqu'un. Aussi, strictement parlant, on ne peut pas excommunier ni son supérieur, ni son égal, ni soi-même, évidemment, c'est du bon sens élémentaire. Alors, on peut excommunier une personne qui a juridiction pour excommunier quelqu'un, on peut excommunier tel ou tel membre d'une communauté, mais pas la communauté tout entière. Cependant, il est possible, c'est un autre détail canonique, il est possible de, si vous voulez, de châtier toute une communauté, ce qu'on appelle placer l'interdit. Avant, ce sont ces choses qui ne sont plus pratiquées, mais avant, parce que l'Église était en ordre, tout au Moyen-Âge, il arrivait pour des choses très graves, l'Église puisse placer, par exemple, toute une ville sous interdit. Et donc, dans ces cas-là, bien, pratiquement, la messe n'était pas célébrée tant que l'interdit n'était pas levé. Donc, l'Église, qui doit imiter le jugement de Dieu, a réglé sagement qu'une collectivité ne serait pas excommuniée en tant que telle, de peur qu'en ramassant l'ivraie, on arrache en même temps le blé. Donc, encore une fois, l'excommunication n'est pas un détail, c'est pas quelque chose qui est manipulé avec sans prudence. Elle peut être réitérée dans certains cas. Il y a autant d'excommunications principales qu'il y a de motifs à être excommunié. Alors, peut-on avoir des rapports avec les gens qui sont excommuniés? Peut-on avoir des rapports avec excommuniés, au moins sur un plan purement matériel? Alors, pour répondre, d'abord, saint Thomas va citer saint Paul aux Corinthiens. Il ne faut pas prendre de repas avec un tel homme. Un homme excommunié. Mais on peut converser licitement avec un excommunié, même sur d'autres sujets, si l'on a par là l'espoir de faire accepter les paroles de salut avec plus de facilité grâce à la familiarité de l'entretien. C'est évident que si un excommunié est à votre porte et vous demande quelque chose à manger parce qu'il meurt de faim, ben, vous allez lui donner quelque chose à manger même s'il est excommunié, c'est du bon sens. Alors, est-il possible pour quelqu'un qui communique avec un excommunié d'encourir lui-même une excommunication? Voilà ce que dit saint Thomas. Celui qui est excommunié est mis en dehors de la communion de l'Église. Par conséquent, celui qui communique avec lui s'écarte de la même communion de l'Église. Ainsi, il pourrait, dans certains cas, excommunier lui-même. L'excommunication peut être portée contre quelqu'un des deux manières, ou bien de façon qu'il soit spécifié qu'il est excommunié avec tous ceux qui entreront en communication avec lui. Donc ça dépend un petit peu du type d'excommunication. C'est une excommunication de personnes qu'il faut éviter systématiquement devant certains péchés d'une très très grande gravité. Il peut y avoir des excommunications de ce genre. Donc, pour la participation, dans le cas de participation avec des excommuniés, on n'a pas coutume d'imposer la peine due au péché mortel, mais plutôt celle qui correspond au péché véniel. C'est donc pas en soi un péché mortel, dit saint Thomas, de communiquer, de donner à manger ou de parler à quelqu'un qui est excommunié. L'idée, si vous voulez, c'est protéger la foi. Si votre voisin est devenu un hérétique et que l'Église l'excommunie pour hérésie, c'est précisément pour protéger les autres fidèles. Donc si vous lui donnez à manger parce qu'il meurt de faim, il n'y a pas de péché, mais si vous passez des heures à discuter avec lui, vous risquez de vous faire contaminer par son hérésie. Sauf si vous êtes suffisamment fort dans votre foi pour ne pas avoir ce risque.
Donc, qui peut absoudre d'une excommunication? Eh bien, tout simplement, la règle générale est la suivante. Celui-là peut absoudre d'une excommunication qui peut en même temps excommunier quelqu'un. C'est tout le même pouvoir, si vous voulez, qu'il revient d'excommunier et d'absoudre de l'excommunication. Alors, il y a des exceptions, surtout à l'article de la mort, je vous l'ai déjà dit, où l'on peut être absous de toute excommunication par n'importe quel prêtre. Donc, il y a d'autres cas, mais c'est surtout le cas le plus important. En cas de danger de mort, l'Église fait sauter, si vous voulez, toutes les limitations canoniques pour qu'un prêtre puisse, dans un cas de danger de mort, absoudre n'importe qui de toute excommunication. Donc, la juridiction forte est externe et cependant exigée pour absoudre l'excommunication, ce qui n'a pas lieu pour l'absolution du péché. Je vous ai déjà expliqué que l'excommunication est liée à un péché grave commis, qui a justifié l'excommunication. Donc, un prêtre sans juridiction particulière, extraordinaire pour ces cas-là, peut absoudre du péché, mais pas l'excommunication. Donc, c'est ce que dit saint Thomas, comme celui qui est excommunié ne peut pas avoir part au sacrement de l'Église, le prêtre ne peut l'absoudre de sa faute que s'il était d'abord relevé de son excommunication. Donc, dans la pratique, c'est ce qui se passe, c'est-à-dire que on peut, donc on a un cas de ce genre, si vous voulez, strictement pareil, parlant, ce qu'il faudrait faire, c'est d'abord obtenir de relever la personne de son excommunication, pardon, avant de l'absoudre de sa faute. Mais dans la pratique, on peut, dans certains cas, absoudre la faute d'abord, surtout s'il n'est pas possible de relever d'excommunication. Dans les cas de danger de mort, on absout la faute et l'excommunication en même temps. Donc, une personne qui est excommuniée ne peut pas être aussi absoute contre sa volonté. L'excommunication, dit saint Thomas, peut donc... c'est le contraire. Quelqu'un peut-il être absout contre sa volonté? Saint Thomas répond positivement. L'excommunication peut être ôtée à quelqu'un malgré lui. Comme les péchés ne sont commis que par la volonté, ainsi ne sont-ils pas remis à quelqu'un contre sa volonté. Au lieu que s'il s'agit d'une excommunication, comme elle est portée contre quelqu'un malgré lui, de même peut-elle être retirée malgré lui. Donc celui qui a porté l'excommunication a le pouvoir de retirer cette excommunication, même si la personne excommuniée n'est pas d'accord. Alors, peut-on être absous de l'excommunication sans l'aide de toutes les autres en même temps, pour quelqu'un qui est excommunié sur plusieurs motifs? La réponse est, et voilà ce que dit saint Thomas, on peut être absous d'une excommunication alors qu'une autre reste. Bon, c'est pas comme les péchés. Les péchés sont tous connectés. Tous les péchés sont connexes dans l'aversion de la volonté à l'égard de Dieu. Aversion qui rend impossible la rémission des péchés. C'est pourquoi un péché peut être remis sans l'autre. Si j'avais dit 10 péchés mortels sur la conscience, vous ne pouvez pas être absous de 9 péchés mortels sans être absous du 10e. Parce qu'il faut regretter tous ces péchés mortels pour être absous du premier péché mortel. Et en fait, tous les péchés étant liés en quelque sorte, si je regrette tous mes péchés, on les absout tous. Si vous regrettez tous vos péchés mortels sauf un, en disant celui-là, je le garde, j'en ai aucun regret, il est évident que vous ne pouvez pas recevoir l'absolution. Bon. Ce n'est pas le cas des excommunications. Les excommunications sont indépendantes. Alors, voyons un petit peu les indulgences maintenant. Les indulgences. Alors, on en est à la question 25. L'indulgence peut-elle remettre quelque chose de la peine satisfactoire? C'est-à-dire, l'indulgence, attention, l'indulgence en tant que telle ne peut pas absoudre le péché. L'indulgence a pouvoir sur la peine due au péché. C'est-à-dire, c'est les peines du purgatoire des péchés déjà pardonnés. Donc celui qui a pouvoir d'accorder une indulgence a pouvoir de remettre en partie ou totalement les peines temporelles des péchés déjà pardonnés. J'ai déjà souvent donné l'exemple d'une indulgence qui est accordée par l'Église à la fin d'une retraite fermée en 5 jours. Par exemple, l'exercice Saint-Ignace de 5 jours tel que je le prêche régulièrement. Eh bien, à la fin de la retraite, le prêtre qui a prêché les exercices de Saint-Ignace en retraite fermée pendant 5 jours a le pouvoir de donner à la fin de la retraite une bénédiction spéciale qu'on appelle la bénédiction papale, à laquelle est attachée une indulgence plénière. Si la personne qui reçoit cette indulgence plénière est dans les bonnes dispositions, avec confession, communion, et un désir positif, pratique, sérieux d'éviter même le péché véniel, il peut recevoir l'absolution de toutes les peines temporelles des péchés qu'il accusait en confession générale pendant sa retraite. Donc s'il meurt après la retraite, il va droit au ciel. Alors voilà ce que dit saint Thomas. Le Christ pouvait remettre la peine du péché sans aucune satisfaction, comme on le voit en saint Jean pour la femme adultère. Donc saint Paul a pu le faire lui aussi. Et le pape, qui n'a pas dans l'Église un pouvoir moindre que celui dont jouissait saint Paul, peut le faire également. Donc un pape, par exemple, peut remettre, accorder dans certains cas, par exemple, une indulgence plénière. C'était le cas, par exemple, ce qu'on appelait avant les jubilés. Quand il y avait un jubilé, par exemple, l'année d'un nouveau siècle, et après, ça a même été multiplié, pratiquement tous les 50 ans, il y avait un jubilé. Le pape avait pouvoir, par exemple, d'accorder dans certains lieux de pèlerinage très connus, certains jubilés, par exemple, le jour où la fête du pèlerinage, du grand pèlerinage, tombait en même temps, par exemple, que le Vendredi Saint ou une autre grande fête. Ces années-là, c'était assez rare, il y avait une indulgence qui était accordée par l'Église. Par exemple, un jubilé qui était très connu au Moyen-Âge, c'était le jubilé du Puy, la ville du Puy, je crois que c'est dans la Haute-Loire, en France. Eh bien, lorsque la fête du Notre-Dame du Puy tombait, je crois que c'était le jour de la fête de l'Annonciation, le 25 mars, ou la fête du Vendredi Saint, je ne me rappelle plus, un des deux, eh bien, il y avait un cas d'indulgence plénière qui était accordé. C'est-à-dire que tous les pèlerins qui venaient à Notre-Dame du Puy au moment du jubilé, et remplissaient les prières, faisaient les prières qui étaient demandées, eh bien, avaient ce pouvoir, pouvaient recevoir du bon Dieu la grâce de pardonner tous leurs péchés. Pas leur péché, attention, l'indulgence n'efface pas le péché, mais la grâce d'obtenir le pardon des peines temporelles liées au péché. Aujourd'hui, par exemple, ce jour où j'enregistre ce cours, le vendredi 2 août, par exemple, eh bien, c'est l'indulgence de la portioncule. L'indulgence de la portioncule, bon, le vieux capucin qui me confesse régulièrement, toutes les semaines je me confesse auprès d'un vieux capucin qui a au moins 80 ans, donc qui a été ordonné avant les réformes. Il est certainement prêtre, et donc c'est lui qui me l'a dit. Il m'a dit, vous pouvez demain gagner, aujourd'hui le vendredi 2 août, vous pouvez gagner l'indulgence de la portioncule. Et donc ce matin, devant le Saint-Sacrement, j'ai dit les prières qui s'imposaient, qui étaient demandées par les franciscains, à savoir, cinq Notre Père, cinq Je vous salue Marie, cinq Gloire au Père, et le credo, pour pouvoir gagner, c'est de gagner l'indulgence de la portioncule. Et si j'ai gagné l'indulgence de la portioncule, l'indulgence franciscaine, eh bien, toutes les peines temporelles de mes péchés passés sautent. Ce serait bien pratique. Alors, il est même possible de satisfaire pour d'autres personnes. Donc non seulement l'indulgence peut remettre quelque chose de la peine satisfactoire pour soi-même, mais on peut aussi prier pour d'autres personnes. C'est le cas par exemple des indulgences pour les défunts. Le 2 novembre, c'est le jour de la fête des morts, la fête des défunts, et bien ces jours-là, et tout l'octave en fait de la fête de la Toussaint, 1er novembre, tout l'octave qui suit le 1er novembre, il y a des possibilités de gagner pour les défunts des indulgences pour eux. Et si vous allez dans un cimetière, vous priez pour les défunts dans un cimetière, et bien vous pouvez gagner, non pas pour vous, parce que vous êtes encore vivant, vous ne pouvez pas l'appliquer à vous-même, mais vous pouvez appliquer à toutes les âmes du purgatoire, et même à certaines âmes en particulier. Vous les priez de façon toute particulière pour vos parents qui sont défunts, par exemple, les membres de votre famille qui sont défunts, ben vous pouvez gagner en ce jour du 2 novembre, si vous remplissez certaines conditions de prière, et bien vous pouvez gagner, si vous êtes en état de grâce, bien sûr, vous pouvez gagner une indulgence plénière pour les âmes des fidèles défunts. Donc on peut, même, dans certains cas, satisfaire pour une autre personne. Rappelez-vous ce qu'a dit notre Seigneur à Saint-Pierre, ce qu'il délirait sur la terre sera délié au ciel. De même que quelqu'un peut obtenir rémission de sa peine si un autre satisfait spécialement pour lui, ainsi en est-il également si la satisfaction d'un autre lui est allouée par celui qui en a le pouvoir. Bon, l'exemple classique, un exemple qu'on peut donner pour faire comprendre, c'est imaginer que quelqu'un est en prison et qu'il ne peut pas sortir de prison sans payer une amende de, par exemple, de 10 000 euros. Bon, il n'a pas cet argent, il ne peut pas payer l'argent, donc il reste en prison. Mais imaginez qu'il est un ami qui a une certaine richesse, et que cet ami, par amitié pour son ami qui est emprisonné paye pour lui les 10 000 euros, eh bien, il va pouvoir faire sortir quelqu'un d'autre de prison grâce à son don généreux. Alors, je passe sur toutes ces parties-là qui sont quand même très, très, très techniques. Donc, l'Église ne ment pas lorsqu'elle publie les indulgences. Celles-ci ont donc autant de valeur qu'il est dit dans leur énoncé. Alors, faites attention un petit peu, évitez la tentation à des gens qui sont un peu comme ça, qui font pratiquement des calculs de mathématiques avec certaines prières en disant ça me donne telle indulgence lorsque les indulgences sont explicites. Par exemple, dans certains cas, vous pouvez gagner en disant telle prière, en faisant tel acte, peut gagner une indulgence de 20 jours, une indulgence d'un mois, une indulgence partielle, ou une indulgence, même dans certains cas, plénière. Donc faites attention, ne cherchez pas trop à faire des calculs de mathématiques comme ça, c'est pas du tout l'esprit d'église. En plus, c'est assez compliqué à expliquer. Quand vous gagnez une indulgence d'un an, ça ne veut pas dire que vous avez un an de purgatoire qui saute. Ça veut dire que cette indulgence d'un an va supprimer la peine temporelle, c'est-à-dire la peine du purgatoire, d'un péché qui aurait été au Moyen-Âge, les premiers siècles de l'Église, sanctionné par une pénitence publique d'un an. Imaginons un exemple. Imaginez que, début de l'histoire de l'Église, le péché d'avortement ait été sanctionné par une peine de pénitence publique pendant un an. Bon, ça n'existe plus actuellement, il n'y a plus de pénitence publique comme ça, mais imaginez, donc l'avortement est sanctionné par une peine de pénitence d'un an. Je vous donne un exemple, c'est un exemple que je donne. Eh bien, si vous gagnez une indulgence d'un an, ça veut dire que vous faites sauter dans votre âme la peine temporelle, c'est-à-dire les peines du purgatoire qui correspondraient à un avortement que vous auriez commis, ou à un péché du même niveau, si vous voulez. Donc, faire un petit peu attention dans ces choses-là. L'Église a le pouvoir des clés, donc rappelez-vous qu'il y a la clé de l'ordre et la clé de la juridiction, donc l'Église a pouvoir aussi, le pouvoir des clés va aussi loin que les peines du purgatoire. Donc l'Église a le pouvoir dans certains cas de faire sauter les peines du purgatoire au moins en partie, à condition que la personne remplisse les critères donnés par l'Église. Donc quiconque a la charité participe même sans indulgence à tous les biens qui peuvent se faire. N'oubliez pas qu'on ne peut pas gagner une indulgence pour soi ou pour les autres sans être soi-même uni à notre Seigneur Jésus-Christ par la vertu de charité. Donc quelqu'un ne peut pas gagner une indulgence pour lui-même ou pour les autres sans être en état de grâce lui-même. Alors l'Église peut même concéder dans certains cas des indulgences pour des pèlerinages ou des aumônes faites par exemple pour aider à la construction d'une église. L'Église, par exemple, a accordé dans certains cas des indulgences spéciales, par exemple pour celui qui priait pour le roi de France. Exemple, c'est le pape Innocent IV qui avait accordé pour quiconque priait pour le roi de France 10 jours d'indulgence. D'accord ? Alors 10 jours d'indulgence, encore une fois, ça ne veut pas dire que vous perdiez 10 jours de purgatoire, pas du tout, ça veut dire que vous enleviez la peine du purgatoire d'un péché qui aurait été sanctionné au début de l'histoire de l'Église par une pénitence publique de 10 jours. Alors, quelles sont les personnes qui peuvent accorder des indulgences? Alors, en soi, un curé, par exemple, ne peut pas accorder des indulgences. Un curé n'a pas le pouvoir d'excommunier, donc évidemment, accorder une indulgence est un acte moins important. Donc, s'il a... Je veux dire, c'est le contraire. Excommunier est un acte moins important qu'accorder des indulgences. Donc, si un curé ne peut pas excommunier, ben, il ne peut pas accorder des indulgences. Yeah. Vous voyez, jusqu'où va Saint Thomas, hein, c'est beau ça, de constater, d'essayer de comprendre l'esprit d'Église. Excommunier, dit Saint Thomas, donc on est à la question 26, article 1, excommunier est un acte moins important qu'accorder des indulgences. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans l'esprit d'Église, dans l'esprit de saint Thomas d'Aquin, une indulgence c'est quelque chose de plus important que d'accorder, que d'excommunier quelqu'un. C'est pour vous expliquer l'importance des indulgences. Donc il ne faut pas choquer, il y a des gens qui poussent des cris de putois en disant comment, qu'est-ce que c'est que ça? L'Église vend l'entrée du paradis, mais pas du tout, l'Église n'a jamais vendu quoi que ce soit. Bon, si l'Église dit, si vous donnez, par exemple, une aumône pour construire, reconstruire la basilique Saint-Pierre à Rome, eh bien, on vous accorde une indulgence. C'est pas une vente d'une chose matérielle. On va pas vendre le paradis, bien sûr que non. vous vendre la sortie du purgatoire, mais c'est ce qu'on appelle le pouvoir des clés de l'Église. Alors, saint Thomas précise qu'il y a deux sortes de sociétés humaines, la société domestique, tous ceux qui sont d'une même famille, et la société politique, ceux qui appartiennent à un même peuple. Il se fait que l'Église est assimilée à la société politique, car le peuple lui-même est dit l'Église, tandis que les diverses communautés ou paroisses du même diocèse sont assimilées à des rassemblements en diverses familles et en divers offices. Donc, ni les curés, attention, donc c'est la conclusion de cette partie par saint Thomas, ni les curés, ni les abbés, ou autres prélats de ce rang, ne peuvent accorder d'indulgence. Bon. De même, un diacre ou quelqu'un qui n'est pas prêtre peut-il accorder une indulgence? Bon. Non, sauf cas très particulier, encore une fois, ce sont des cas qui n'existent plus aujourd'hui, le cas, je crois, d'un cardinal diacre. Je pense qu'un cardinal diacre avait pouvoir de donner certaines indulgences dans certains cas. Donc, c'est ce que dit saint Thomas. La dispensation du trésor de l'Église est confiée à celui même auquel est commis son gouvernement. Or, il arrive que celui-ci soit commis à quelqu'un qui n'est pas prêtre. Un tel homme a donc aussi le pouvoir d'accorder des indulgences, puisque celles-ci tiennent leur efficace de la dispensation du trésor en question. Dans la pratique, les évêques avaient autrefois certains pouvoirs pour distribuer des indulgences, donner des indulgences. Par exemple, il y avait des indulgences qui étaient accordées le jour de la consécration épiscopale d'un évêque dans un diocèse. Et le pape, bien sûr, a ce pouvoir. Et le pape pouvait déléguer ce pouvoir à un évêque. Les évêques, donc, ont le pouvoir de conférer des indulgences, selon la coutume de l'Église. Alors, est-il, saint Thomas creuse, en se posant la question de savoir si quelqu'un qui est en état de péché mortel, c'est la question 26, article 4, quelqu'un qui est en état de péché mortel, peut-il accorder des indulgences? Bon. Et voilà ce qu'il dit. Celui qui est en état de péché mortel peut accorder des indulgences. Bon. Pourquoi? Parce qu'accorder des indulgences, c'est un acte de juridiction. On ne perd pas cette juridiction par le péché. Alors, à qui ces indulgences peuvent-elles profiter? Alors, voilà ce que dit saint Thomas. Un membre mort ne reçoit pas l'influx des autres membres qui sont vivants. Mais celui qui est en état de péché mortel est comme un membre mort. Par conséquent, il ne reçoit pas les indulgences, l'influx qui provient des mérites des membres vivants. Donc quelqu'un qui est en état de péché mortel ne peut gagner une indulgence. Première condition pour être capable de gagner une indulgence partielle ou plénière, c'est d'être en état de grâce pour être uni à l'Église, uni à notre Seigneur Jésus-Christ. Quand j'ai commis une faute grave, j'ai perdu l'union avec notre Seigneur Jésus-Christ. Donc je ne peux pas recevoir la sève puisque ma branche n'est plus connectée au réservoir de la sève. Alors, les indulgences ont valeur aussi bien pour les religieux, même certaines indulgences qui ont leur effet, surtout pour les religieux, dans certains cas particuliers. Les indulgences ont valeur aussi bien pour les religieux que pour les séculiers, pourvu qu'ils aient la charité, encore une fois, qu'ils soient en état de grâce, et qu'ils accomplissent ce qui est prescrit pour les gagner. Par exemple, de dire certaines prières, de rentrer dans certaines églises, faire certaines pénitences, par exemple. Alors, est-ce que l'indulgence peut être accordée à celui qui ne fait pas ce qui est prescrit pour la gagner? Donc, saint Thomas répond, si on ne fait pas ce pourquoi l'indulgence est donnée, et qui est la cause de l'indulgence, celle-ci n'est pas obtenue. C'est du bon sens élémentaire. Si l'Église accorde une indulgence pour ceux qui disent le chemin de croix, si vous ne faites pas le chemin de croix, ben vous ne pouvez pas gagner cette indulgence précise. Alors, l'indulgence... Saint Thomas se pose la question de savoir si une indulgence peut profiter à celui qui l'a établi. Voilà ce qu'il dit. Donc, un prélat à qui est confiée la charge du bien de l'Église et de l'honneur divin n'a pas de raison de s'exciter lui-même à ces tâches. Il ne peut donc établir d'indulgence à son profit. Toutefois, il peut user de celle qu'il a établie pour les autres, vu que pour ceux-ci, il y avait motif à le faire. Donc quelqu'un, un évêque par exemple, qui accorde une indulgence dans tel diocèse, pour telle action, telle prière dite, ben, s'il dit lui-même ses prières dans les mêmes conditions, il peut gagner l'indulgence aussi pour lui-même. Alors, saint Thomas va terminer son traité sur le sacrement de pénitence par une question 28 sur la pénitence solennelle. Alors, ce sont des choses qui ont moins d'importance aujourd'hui parce que ce sont des points canoniques qui ont disparu. Mais avant, c'est très important. Rappelez-vous saint Ambroise, donc qui refuse l'entrée de l'église à l'empereur qui avait provoqué le massacre de Thessalonique. Et l'État, il avait décimé une partie de son armée. Et pour le punir, saint Ambroise, devant la gravité du fait de cet empereur, avait interdit à l'empereur, alors je crois que c'était Valentinien, avait interdit à l'empereur l'entrée de l'église. Et l'empereur s'est évidemment plaint à l'évêque, hein, saint Ambroise, c'est pas n'importe qui, hein, saint Ambroise. Saint Ambroise, évêque de Milan, en Italie, en disant, mais Dieu a bien pardonné à David son péché. Et saint Ambroise a répondu, c'est exact que Dieu a pardonné à David son péché, puisque vous avez imité David en péchant, vous avez imité David en faisant pénitence. Et il lui a imposé une pénitence publique. Et l'empereur, humblement, s'est soumis à la pénitence publique. Et ça montre la puissance, si vous voulez, de l'Église à cette époque-là, justement, qui avait une puissance énorme pour aider, justement, même les rois à retrouver l'état de grâce. À tel point, je vous l'ai déjà dit, que le pape avait par exemple pouvoir, dans certains cas, de délier tous les chevaliers d'un royaume de l'obéissance à leur prince si le prince commençait à faire n'importe quoi. Donc c'était le cas, entre autres, lorsqu'un prince catholique abandonnait son épouse légitime pour aller se mettre en concubinage avec quelqu'un. C'est un scandale énorme pour tout le royaume. Et donc dans un cas comme ça, en général par le légat apostolique, ou de lui-même s'il pouvait le faire, le pape, quand il entendait parler de choses comme ça, dans certains cas, il allait excommunier le prince pour ce qu'il avait fait. Et pour bien montrer l'importance de ce qu'il avait fait, dans certains cas, s'il ne voulait pas venir à récipiscence et reprendre son épouse légitime, ou au moins arrêter de vivre dans le péché avec une épouse qui n'était pas la sienne, eh bien, le pape sortait un texte qui disait qu'il libérait, qu'il déliait de leur vœu d'obéissance tous les chevaliers du royaume. Et du jour au lendemain, le prince de ce pays se retrouvait sans aucune autorité sur ses chevaliers. Et je vous assure que c'était vite réglé. Bon, ce ne sont pas des choses qui existent aujourd'hui, on peut le regretter d'ailleurs. Alors, donc, saint Thomas d'Aquin se pose la question de savoir si certaines pénitences peuvent être rendues publiques ou solennelles. Bon. Rappelez-vous la règle générale que j'ai déjà expliquée. À péché privé, pénitence privée. À péché public, pénitence publique. Si quelqu'un a donné un grand scandale publiquement, il doit réparer ce scandale publiquement. Si quelqu'un a péché, quand même péché grave, mais uniquement devant Dieu, Dieu seul est témoin, pas les fidèles, eh bien, évidemment, on va demander une réparation privée, pas une réparation publique. Un prêtre n'a jamais le droit de transformer un péché privé en péché public. Bon. Imaginez quelqu'un qui a commis un péché d'avortement, par exemple, le crime de l'avortement, a tué un bébé dans le sein de sa mère, eh bien, c'est un péché privé, c'est un péché grave, gravissime, avec une peine d'excommunication, mais c'est un péché privé. Donc la pénitence peut être sérieuse, mais une pénitence privée. Bon. Si, au contraire, quelqu'un a fait une faute publique, c'était le cas que je viens de vous citer, d'un prince qui abandonne son épouse légitime pour vivre avec une concubine, eh bien, il y a un scandale public qui est donné. Comme il y a un scandale public qui est donné, eh bien, la réparation doit être publique. Il ne suffit pas de relever l'excommunication ou relever du péché, il faut aussi que le scandale public cesse. Donc, il y a des péchés publics qui en entraînent beaucoup d'autres par leur exemple à péché, ce qu'on appelle le péché de scandale. Le péché de scandale, c'est ça. Dans le cas que je viens de vous citer comme exemple, un prince qui abandonne son épouse légitime et qui vit en concubinage publiquement, scandalise tout le pays. Non seulement il scandalise tout le pays, mais il va pousser les gens pas très solides dans leur pays, dans son pays, les gens qui ont une foi un peu superficielle dans le pays, d'en faire autant. Ils vont se dire, si le prince Notre supérieur vit dans le concubinage, pourquoi je ne pourrais pas faire autant? Moi aussi, je vais répudier mon épouse légitime, qui est devenue un peu trop vieille, un peu trop moche, je vais prendre une petite jeunette, là, toute mignonne, et je vais faire comme le prince. Donc, ce qu'on appelle un péché de scandale. Bon. Et donc, il y a des péchés publics qui entraînent beaucoup par exemple un péché. Par conséquent, dit saint Thomas, la pénitence qui est le remède de ces péchés doit être aussi, dans ce cas-là, publique et solennelle, ce qui sera pour un grand nombre au sujet de l'édification. Un sujet d'édification. C'est-à-dire, dans un cas comme ça, le pape exige une pénitence publique pour que l'offense publique soit réparée, que le scandale soit colmaté en quelque sorte. Alors, saint Thomas va expliquer pourquoi certaines pénitences doivent être rendues publiques. Il a donné quatre raisons. La première, c'est pour que le péché public ait un remède public, j'ai déjà expliqué. Deuxièmement, parce que celui qui a commis un crime très grave est aussi digne en ce monde de la plus grande confusion. Troisièmement, afin que ses pénitences soient pour les autres un sujet de crainte. Quatrièmement, un titre d'exemple de pénitence, de sorte que ceux qui sont dans les péchés graves ne désespèrent point. Les quatre raisons sont magnifiques. Première raison, pour que le péché public ait un remède public. Deuxième raison, pour que celui qui a commis un crime très grave soit digne en ce monde de la plus grande confusion. Troisième raison, afin que ses pénitences soient pour les autres un sujet de crainte. Et quatrièmement, un titre d'exemple de pénitence. Pousser les gens à faire pénitence de la même façon s'ils sont coupables du même péché et qu'ils ne désespèrent pas. Point. Ça, c'est très important à comprendre. Bon, il faut voir que, prenez un exemple tout simple, la multiplication dans le monde moderne, malheureusement, des péchés contre nature, péché de sodomie par exemple. Eh bien, la gravité de ce péché fait que l'Église a classé ce péché de sodomie dans la catégorie des péchés qui crient vengeance contre le ciel. Attention, je précise qu'il y a péché lorsque la personne pratique donc son vice. Si quelqu'un a ce genre de tendance, mais lutte en se confessant, en priant, en faisant pénitence, il ne vit pas dans le péché, il n'y a pas de péché, bien sûr que non. Mais si une personne vit dans la sodomie, il est évident qu'elle est coupable à ce moment-là d'un péché gravissime, contre nature, qu'on appelle un péché qui crie vengeance contre le ciel. Ça dit bien ce que ça veut dire. Bon. Mais il est évident que si ce péché s'est répandu dans le monde comme la misère à la face de la terre, c'est précisément parce que les médias, si vous voulez, ont toujours présenté ça comme quelque chose de naturel, parfaitement normal. Et beaucoup de gens qui seraient jamais tombés dans un péché pareil s'il y avait eu s'il avait eu la foi, beaucoup de gens qui ne seraient jamais tombés dans les péchés pareils si publiquement l'Église avait justement rappelé la doctrine de l'Église sur le sujet, eh bien, actuellement, c'est devenu un péché extrêmement fréquent, malheureusement. Pourquoi ? Parce que, malheureusement, l'Église moderne ne dit plus rien sur le sujet. Non seulement l'Église moderne ne dit plus rien sur le sujet, mais Bergoglio lui-même s'est fait prendre en photo, main dans la main, avec un sodomite notoire qui était un prêtre à Rome. Donc c'est des choses ahurissantes. Donc lorsque un péché n'est plus sanctionné par l'État, n'est plus sanctionné par l'Église officiellement, eh bien évidemment, ça ouvre une porte et beaucoup de gens vont être tentés par ce péché. Il est évident qu'au Moyen-Âge, par exemple, le péché de sodomie était sanctionné non seulement par l'Église, mais également par l'État. C'est du bon sens élémentaire, parce que c'est un péché qui va complètement ruiner la famille, ruiner la possibilité même de famille. Et donc, dans un cas comme ça, lorsqu'un sodomite était pris par la police au Moyen-Âge, donc il y avait des peines publiques à cause des conséquences publiques de ce péché. Bon. C'était la même chose pour l'Église. L'Église avait aussi un pouvoir sur ces personnes-là, c'est évident. C'est à elle qui rendait qui donnait des conséquences politiques, mais l'Église avait bien sûr mis dans la catégorie des péchés gravissimes ce genre de péché. Et on voit très bien qu'au Moyen-Âge, il y avait certainement malheureusement au Moyen-Âge des gens qui avaient ce genre de tendance. La tendance, elle peut toujours exister malheureusement, là il n'y a pas péché tant qu'il n'y a pas d'acceptation de la tendance. Eh bien, il y avait au Moyen-Âge des gens qui avaient certainement ces tendances, mais il y avait une telle protection venant de la part de l'État et de la part de l'Église qu'évidemment, les gens qui avaient ce genre de tendance se cachaient, si vous voulez, pour commettre ces péchés abominables, précisément parce qu'ils ne voulaient pas être mis en prison, et même pire dans certains cas. Voyez. Évidemment, aujourd'hui, on a beaucoup de mal à comprendre ces choses-là, parce que les gens vont vous dire, mais de plus en plus de gens le font, de plus en plus de gens font ce genre de péché, donc c'est pas si grave que ça, puisque tout le monde le fait. Ou de plus en plus de gens le font. Eh bien non, c'est absolument faux. Même s'il n'y avait qu'une seule personne qui faisait ce genre de péché, ce péché reste ce que l'Église catholique a toujours dit, péché qui crie vengeance contre le ciel. Lorsque les gens me demandent, ça arrive souvent, qu'est-ce que vous pensez des droits des gays, comme ils disent, des droits des sodomites, je réponds toujours, je pense rien du tout personnellement, je pense que l'Église catholique pense. L'Église catholique a placé ce genre de péché dans la catégorie des péchés qui crient vengeance contre le ciel, donc je suis la même chose. Bon, ceci dit, attention, si un sodomite vient me dire, monsieur le bébé, je meurs de faim, est-ce que vous pouvez me donner quelque chose à manger? Je lui donne à manger. Bon, si quelqu'un de ce genre vient se confesser à moi, c'est des choses qui peuvent arriver. Aux États-Unis, on a eu beaucoup de personnes qui étaient malheureusement atteintes par ce vice. Eh bien, je vais essayer de l'aider à se sortir du vice. Je ne vais pas lui dire, vous inquiétez pas, le bon Dieu vous aime tel que vous êtes, restez tel que vous êtes. Bien sûr que non. Voilà pourquoi ces distinctions de saint Thomas sont gravissimes. Et une des raisons pour laquelle ce péché, ce vice de sodomie s'est répandu dans le monde entier, malheureusement, c'est précisément parce que les États ont fini par tolérer ce vice. D'abord tolérer, puis ensuite accepter, et maintenant littéralement encenser. Mais ça reste un péché gravissime devant Dieu. N'oubliez pas que Dieu a châtié les deux villes de Sodome et Gomorre, par le feu, la soufre, le soufre et la destruction totale. Actuellement, à l'emplacement de ces deux villes, il y a la mer morte. Les deux villes ont été complètement détruites par un châtiment divin à cause de ce péché. Bon. Ceci dit, est-ce qu'il faut pardonner aux pécheurs repentants? Bien sûr. Donc un sodomite qui cherche à s'en tirer, il y en a, heureusement. Il faut les aider d'ailleurs pour cela. Il faut évidemment leur pardonner. Mais faire bien attention qu'ils prennent les moyens pour ne plus retomber. Alors attention donc à ces choses-là, ce sont des choses très très importantes. Et ils ne conviennent pas me dire, là, je répète ces choses-là, j'ai déjà expliqué ça, mais il faut que ça rentre aussi dans les consciences, hein, des gens qui m'écoutent par internet. Donc c'est pas parce que ces choses sont très fréquentes que ça veut dire qu'il faut les accepter. Certaines personnes m'ont dit, monsieur l'abbé, mais c'est une tendance naturelle, j'ai une tendance naturelle comme ça, je suis un homme, je suis absolument pas attiré par les femmes, je suis attiré que par les hommes, c'est pas de ma faute, c'est une tendance que j'ai, j'aimerais bien ne pas avoir cette tendance, mais je l'ai, donc je peux la pratiquer. Je réponds, bien sûr que non. Imaginez quelqu'un qui a une tendance à boire deux bouteilles de whisky tous les soirs, parce qu'il vient d'un milieu de gens qui boivent énormément, il a été élevé dans une famille où il a vu ses parents ivres toute la journée, et du coup, il a la même tendance. Et, ou à cause de raisons physiques, par exemple, il peut avoir certaines tendances à boire beaucoup trop. Est-ce que ça veut dire pour autant qu'à cause de cette tendance naturelle, c'est-à-dire qu'il a dans sa nature, eh bien, il faut accepter la chose parce que c'est naturel? Non. En plus de ça, il peut y avoir des tendances qui sont dans un organisme, naturellement parlant, à cause de défauts corporels, à cause de problèmes hormonaux, problèmes psychologiques, etc. Donc, il ne faut pas oublier que l'Église a toujours considéré ces péchés comme des péchés contre nature. Ça veut dire contre la nature de l'homme, même si c'est une tendance naturelle pour telle personne. C'est comme si une personne me disait, monsieur l'abbé, moi je suis kleptomane par tendance, j'ai toujours voulu voler les portefeuilles des voisins, j'en fais collection, j'en ai 150 dans mon bureau. Donc c'est une chose naturelle, il faut respecter ça. Bien sûr que non, on ne va pas respecter ça. Vous devez, monsieur, arrêter de voler les portefeuilles et rendre à la propriétaire les portefeuilles que vous avez volés. C'est du bon sens le plus élémentaire. Alors, saint Thomas précise qu'un pécheur qui a accompli une pénitence publique ne retrouve pas cependant l'honorabilité qui lui permettrait d'accéder à la cléricature. Et l'évêque qui leur donnerait sans ces conditions doit être privé de pouvoir donner, à moins que le besoin de l'Église en exige qu'il y ait une coutume dans ce sens. Donc en principe, quelqu'un qui a été condamné à faire une pénitence publique ne peut pas accéder à l'ordination. Dans ce cas, celui qui a fait une telle pénitence peut être admis dans certains cas par dispense aux ordres mineurs, mais pas aux ordres majeurs. C'est-à-dire qu'il peut être ordonné portier, lecteur, acolyte ou exorciste, mais pas sous-diacre, diacre ou prêtre. D'abord à cause de la dignité de ces derniers, par crainte d'une rechute de sa part, à cause du scandale à éviter, scandale que le souvenir des péchés intérieurs pourrait occasionner dans le peuple, parce que son péché ayant été public, il n'oserait pas lui-même corriger les autres. Je donne un exemple, dans les séminaires, le séminaire des comptes, c'était comme ça, avant de rentrer au séminaire, dans l'enquête qui était faite, si vous voulez, avant qu'une personne soit définitivement acceptée dans un séminaire, il y avait une enquête qui était faite, évidemment sur la personne. D'abord, il fallait que la personne qui souhaitait rentrer au séminaire présente une lettre d'un prêtre connu, qui précise, je connais cette personne depuis longtemps, il présente toutes les qualités morales, autant que je puisse juger, qui font qu'il peut rentrer au séminaire. Bon. Mais dans certains cas, il y a certains péchés, si vous voulez, qui étaient pardonnables, bien sûr, mais qui empêchaient l'entrée au séminaire. Par exemple, quelqu'un qui avait eu un gros problème d'alcool pendant plusieurs années. Bon, pendant des années, il a eu un gros problème d'alcool, il buvait beaucoup trop, il s'en enivrait régulièrement, ça a duré 5-6 ans, puis avec la grâce du bon Dieu, il a changé de vie, maintenant il ne boit plus du tout, ça fait 5 ans qu'il a arrêté de boire, etc. En général, on n'accepte pas dans un séminaire. Pourquoi ? Parce que la formule est là, qui a bu, boira. Donc un prêtre peut se retrouver dans des situations où les péchés contre l'espérance peuvent le tenter, surtout à cause de la solitude. Les prêtres sont souvent seuls. Et un prêtre qui a beaucoup bu dans le passé, s'il se retrouve dans des situations difficiles de solitude, par exemple, pourrait être tenté de se remettre à boire. C'est pareil pour quelqu'un qui a eu dans le passé de gros problèmes de drogue dure. Eh bien, pendant des années, il a pris de la drogue dure, pendant la cocaïne ou l'héroïne, ou je ne sais quoi. Eh bien, même s'il a arrêté, en général, on ne prend pas au séminaire. Après, chez les religieux, les religieuses, c'est même parfois un peu plus sévère. Par exemple, une jeune fille qui a été coupable d'un péché d'avortement, du meurtre d'un enfant, même si elle a fait pénitence, même si elle a été absoute du péché, elle a relevé de l'excommunication, elle ne peut pas rentrer en général dans une maison religieuse pour devenir sœur à cause de ce péché. Ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas sauver son âme, bien sûr que non, mais elle doit sauver son âme d'une autre façon, par exemple en se mariant, en donnant la vie justement, et en donnant la vie, rattrapant son péché de meurtre. Alors, les pénitences solennelles, en principe, ne se font qu'une seule fois. Elles ne doivent pas être réitérées, de peur qu'ainsi elles se trouvent dévaluées, et que, si vous voulez, à cause de sa signification, parce que la solennisation de la pénitence, c'est comme une profession de garder perpétuellement la pénitence, de sorte que la réitération répugne à la solennité. Toutefois, dit saint Thomas, celui qui a fait pénitence solennelle n'est pas exclu de toute pénitence, il vient pécher à nouveau. Mais une pénitence solennelle ne doit pas lui être enjointe de nouveau. Alors encore une fois, ces pénitences solennelles, qui sont des pénitences publiques, sont des choses qui ont disparu aujourd'hui. Cependant, un prêtre pourrait obliger quelqu'un qui a commis un scandale considérable de faire une pénitence publique. Mais donne un exemple imaginaire, un exemple que je donne. Imaginez dans une maison religieuse, par exemple, un moine, une religieuse qui a donné un scandale à toute la communauté en faisant quelque chose qu'elle n'avait pas le droit de faire publiquement. Bon, imaginez par exemple, je donne un exemple un peu idiot, mais c'est pour vous expliquer. Imaginez un homme qui, dans un moine dans une maison religieuse, qui un jour a perdu la tête et a bu deux bouteilles de vin qu'il a trouvé à la sacristie, le vin de messe, et puis c'est enivré dans toute la communauté. Toute la communauté a vu que ce moine s'était enivré. Puis après, il rentre en lui-même, il demande pardon au supérieur, il pleure toutes les larmes de son corps, il demande pardon, il se confesse, etc. Eh bien, dans certains cas, le supérieur aurait le droit d'imposer une pénitence publique en disant, voilà, eh bien, vous allez vous mettre à genoux au milieu du réfectoire ce soir pour demander pardon publiquement du scandale que vous avez donné à toute la communauté. Et vous allez vous mettre les bras en croix, ou même vous allonger sur le sol les bras en croix et réciter publiquement un chapelet devant toute la communauté, qu'on va d'ailleurs dire avec vous pour vous aider, et afin de réparer la faute, le scandale que vous avez donné par votre comportement. Dans certains monastères, par exemple les dominicains, c'est comme ça. Quand on fait une faute légère pendant un office, par exemple une faute de on se trompe de ligne, il y a une petite pénitence publique. Le moine qui vient de faire une faute involontaire, mais faute quand même, au moins faute matérielle, si vous voulez, qui s'est trompé de ligne, il a chanté une faute note, et bien il va se mettre, il se met à genoux, il se met à, parfois dans certains cas, chez les dominicains, c'est même ce qu'on appelle la coulpe, donc il va s'allonger devant le sanctuaire, devant tous les moines, et pendant quelques secondes, et le supérieur va frapper comme ça sur son pupitre, et lui donne l'ordre de se relever. Il se relève, il retourne à sa place. Donc ces rites de pénitence solennelle étaient comptables. La pénitence solennelle peut donc être imposée également aux hommes et aux femmes, mais pas aux clercs à cause du scandale, au moins dans certains cas. Donc il faut voir ça au cas par cas, selon les coutumes locales surtout. Voilà, donc je suis allé un petit peu vite aujourd'hui parce que je voulais terminer ce traité de la pénitence, donc les questions 1 à 28 du supplément de la somme théologique de saint Thomas d'Aquin. Et je suis arrivé à la fin. Donc, la prochaine fois, si Dieu veut, nous allons continuer donc le traité suivant. Alors, ce traité suivant, alors que je ne vous dise pas de bêtises, le traité suivant, c'est le traité sur l'extrême onction. Donc, qui est assez court, c'est un traité qui ne comporte que 4 questions, questions 29 à 33, dont nous couvrirons l'extrême onction, si Dieu veut, au prochain cours. Nous allons terminer par une prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Je vous rappelle une fois de plus que j'ai encore quelques places pour la retraite de septembre, l'exercice Satignas en 5 jours, du 23 au 28 septembre, et également pour la retraite d'octobre, du 14 au 19 octobre. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.